Bonjour à chacun. Je termine la lecture du dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes dont plusieurs savent que c'est la suite de l'évangile de Luc, et livre des Actes qu'on pourrait appeler en fait les Actes de Jésus et non pas des Apôtres. Et pour cela, vous pouvez vous en rendre compte en lisant les premiers versets de l'évangile de Luc et les comparer avec les premiers versets du livre des Actes. Dernier chapitre, le premier chapitre lui commençait à Jérusalem. Il annonçait au chapitre 1, verset 8, la diffusion de l'évangile depuis Jérusalem et en Judée, puis en Samarie, puis jusqu'au bout du monde. Et en fait, c'est bien les étapes que suit le livre, puisque jusqu'au chapitre 7 et 8, les choses se passent à Jérusalem et en Judée. Au chapitre 8, il se passe en Samarie. Et ensuite, on a un mouvement géographique qui s'étend de plus en plus. Le livre donc se termine par le voyage de l'apôtre Paul jusqu'au cœur de la métropole de l'époque, la grande puissance de l'époque, c'est-à-dire Rome. Est-ce cela qu'il fallait entendre par jusqu'au bout du monde? Et donc avec ce mouvement géographique, c'est une diffusion de l'évangile qui petit à petit passe non seulement d'une ville à une autre, d'une région à une autre, mais aussi d'un peuple à un autre. Au début, c'est le peuple juif à Jérusalem. Au chapitre 8, on est en Samarie, et c'est un peuple qui, ce ne sont pas vraiment des juifs, mais c'est un peuple bâtard, si je puis dire, des descendants d'un mariage mixte entre des juifs restés et puis un peuple déporté qui a été mis en Samarie. Donc un peuple qui était méprisé à l'époque. Donc on s'éloigne un petit peu de la pureté juive, si je peux employer ce langage. Et puis, à partir du chapitre 10, on commence à être chez les non-juifs. Et à la fin du livre, alors là, on est au cœur du monde non-juif. Retrouvant d'ailleurs peut-être, c'est peut-être une façon de boucler le livre, certains des croyants qui étaient présents au tout début du livre, chapitre 2, au moment de la Pentecôte, on lit au verset 10 que certains venaient de Rome. Mais en tout cas, donc, on a un déploiement dans le livre à la fois géographique et ethnique. Et ce déploiement, c'est bien ce qu'on lit au cœur de ce dernier chapitre. On le lit d'ailleurs à plusieurs reprises avant, dans les discours de Paul, dans les épisodes précédents, si je peux employer ce langage. Et ça revient de manière très, très insistante, c'est pas anodin, l'auteur s'y arrête. Et donc on le voit au cœur de ce chapitre dont je lis des extraits. Au verset 16, on lit que après l'arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un appartement personnel. Au verset 17, il invite les chefs des Juifs à le rencontrer. Et puis je commence la lecture de manière plus attentive à partir du verset 23. Donc il discute avec ses compatriotes. Et on lit verset 23 au milieu, l'entretien dura du matin jusqu'au soir. Ça a dû être long. Paul leur exposa sa doctrine. Il leur annonça le royaume de Dieu, et en s'appuyant sur la loi de Moïse et sur les paroles des prophètes, il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Les uns se laissèrent persuader par ses paroles, mais les autres refusèrent de croire. Et au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux, et Paul fit cette réflexion. Elles sont bien vraies, ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe. Et il cite l'Ancien Testament. « Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. » Et Paul ajouta, « Sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux non-juifs. Eux, ils écouteront ce message. Donc on voit bien ce mouvement des juifs vers les non-juifs. Paul, verset 30, resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose trois remarques. La plupart d'entre nous, à Villefontaine, dans l'église, dans la communauté que nous formons à Villefontaine, et à ma connaissance, la plupart d'entre nous, et nous ne sommes pas juifs. Je ne sais pas par quel chemin, par quel mystère, la parole de Dieu est venue à la rencontre de chacun, traversant l'espace, traversant le temps, traversant les frontières ethniques. Mais ce que je sais, c'est que si nous lisons ce texte aujourd'hui, si nous croyons en Jésus-Christ, nous aussi aujourd'hui, c'est parce que nous aussi nous sommes au bénéfice de ce mouvement géographique et ethnique dont nous prenons connaissance dans le livre des Actes. J'ai écrit dans la Gazette que j'avais lu un ouvrage récent d'un historien agnostique, d'ailleurs, enfin pas spécifiquement un croyant, Tom Holland. Il dit, c'est une vraie, donc, qui s'appelle Les chrétiens, comment ils ont transformé le monde. Il dit, c'est une vraie question que celle-ci. Et la question, c'est comment se fait-il que l'exécution d'un obscur délinquant, Jésus, comment se fait-il que l'exécution d'un obscur délinquant dans un empire disparu depuis très longtemps ait pu exercer une influence aussi décisive et durable sur le monde au point de le transformer? Et c'est une question qui vaut la peine d'être posée à nos proches. Quel intérêt, après tout, pourrait-on dire, peuvent avoir les actes et les gestes d'un crucifié comme il y en a eu tant à l'époque? Alors peut-être que nous-mêmes on ne s'est pas posé la question sous cet angle, mais j'ai envie de nous dire, comment se fait-il que l'exécution d'un obscur délinquant comme Jésus ait pu nous rejoindre, nous aussi, aujourd'hui, nous qui sommes attachés à lui? Dans le texte que nous avons lu, Paul fait entendre à ses visiteurs que c'est Dieu lui-même qui a voulu que l'Évangile soit annoncé aux non-juifs comme aux juifs. Dieu qui l'a annoncé, qui l'a préparé. Au verset 23, on dit que Paul s'appuie sur la loi de Moïse et sur tous les prophètes. Donc Dieu avait annoncé, préparé, prévenu de la venue de Jésus bien en amont dans l'histoire, aussi des centaines d'années auparavant. Et c'est là-dessus que Paul s'appuie, sur cette parole de Dieu. C'est sa Bible à l'époque, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est pas le Nouveau Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament à l'époque. La Bible de Paul, ce sur quoi il s'appuie pour plaider, pour parler de Jésus, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est là qu'il voit la preuve, c'est ce qui lui fournit le matériau pour dire, pour découvrir et pour annoncer que rien de ce qui se passe n'est le fruit du hasard. Et pourtant, c'est assez paradoxal, parce qu'on aurait là donc un Dieu qui parle, un Dieu qui s'annonce, mais c'est un Dieu qui sait bien que ses propos, que ses projets vont être rejetés par une partie de son peuple. C'est le texte d'Ésaïe que Paul cite, qui annonce que va trouver ce peuple, mais ce peuple entendra mais ne comprendra pas. Ils auront beau voir, mais ils ne saisiront pas. Et c'est prévu, si je puis dire, que les uns se laisseront persuadés, verset 24, et les autres, refusons de croire. Et pour Paul, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une surprise. C'est déjà annoncé. Donc ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard. Et je me dis qu'à une époque de l'histoire, aujourd'hui, où nous avons de quoi nous sentir troublés, où nous ne savons pas bien de quoi demain sera fait, comment les choses seront après le déconfinement, ou bien si nous serons peut-être encore après le déconfinement reconfinés et confinés encore cet été, cet hiver, par exemple, eh bien j'aime entendre cela, c'est bienfaisant pour moi d'entendre cela, d'entendre que rien de ce qui se passe n'est le fruit du hasard. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je sais une chose, c'est que cette familiarité, cette rencontre avec le Christ, cette connaissance avec du projet de Dieu, cela nous a été aussi aujourd'hui offert à nous. C'est à nous aussi, aujourd'hui, des siècles après, que cela a été offert et donné. Et je dis ma gratitude que ce mouvement de l'Évangile, ce message, après être parti du judaïsme, à l'époque de Paul, ait été étendu, annoncé aux non-juifs, à l'époque de Paul, et qu'il nous rejoigne et nous parle aujourd'hui. Je me réjouis que cela soit à nous aussi. Deuxième chose, ce qui m'a le plus étonné dans ce chapitre, c'est cette fin qui est un peu comme en suspens. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Point. Et j'étais frappé en particulier par cette formule. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Ce qui me frappe déjà, c'est que c'est pas une conclusion. C'est pas une clôture. Et je dis cela, notamment aussi parce que je mesure que Luc, donc, qui raconte cette histoire, sait davantage que ce qu'il raconte. Il sait que Paul est resté 2 ans dans ce logement. Vraisemblablement, avant de passer à autre chose. Sans quoi je me dis, je me trompe peut-être, mais que Paul aurait probablement écrit quelque chose comme « ça fait 2 ans qu'il est dans ce logement et puis il y est toujours au moment où j'écris ». Non, il le présente, les choses pourraient me semblent être comme si, ben voilà, il y est passé 2 ans et Luc ne nous le dit pas. Et moi, en tout cas, peut-être nous, peut-être vous, j'aimerais bien savoir la suite. On aimerait savoir ce qui est arrivé à Paul après. Pourquoi est-ce que Luc a terminé son récit ici, sans prévenir, sans conclure? Est-ce qu'il y aurait quelques lignes de plus qui se seraient perdues en route, par exemple? Donc on ne sait pas, il y a quelque chose qui reste en suspens. Pourquoi? Bien, la première chose que je veux dire, c'est que je n'ai pas de réponse à cette question. La deuxième chose, peut-être, c'est que, en même temps, j'ai envie de dire, peut-être que nous en connaissons une partie de cette suite. Parce que nous sommes une partie de cette suite. Bien sûr, nous ne savons pas ce qui va suivre pour nous. Mais nous savons une partie de ce qui s'est passé après le livre des Actes. Et nous sommes une partie de la suite. Et puis je pensais en lisant ce texte, j'en ai peut-être déjà fait part parce que j'aime bien cette proposition d'un chrétien anglais. Il nous propose de regarder la foi chrétienne un peu comme si nous étions des acteurs d'une pièce de théâtre à qui le texte des premiers actes, donc une pièce de théâtre en 5 actes, par exemple. Et puis nous aurions entre les mains le scénario, les phrases à dire, si je puis dire, des acteurs, nous aurions le texte des 4 premiers actes, et puis nous n'avons pas le 5e acte. On n'a pas la suite. Et pourtant, le public attend que les acteurs jouent le 5e acte. Et qu'est-ce qu'ils font, les acteurs, dans ce cas-là? Eh bien, ils font pas n'importe quoi, parce que ils savent déjà comment les personnages doivent évoluer. Ils ont chacun endossé les traits d'un personnage, et donc ils savent le caractère des personnages, ils savent ce que le personnage est censé faire, ses fragilités, ils connaissent ses forces, donc il s'agit d'improviser, mais improviser à partir, comme une improvisation musicale d'ailleurs. Il y a des phrases musicales qui sont données, et à un moment donné on improvise, mais on n'improvise pas en faisant complètement autre chose. On improvise à partir des phrases qui sont déjà là. Eh bien, nous aussi, nous ne savons pas la suite, nous savons ce qui nous précède, et la suite, eh bien, c'est à nous de l'improviser. C'est à nous de la mettre en scène. C'est à nous de l'incarner. La suite, c'est à nous, d'une certaine façon, de la découvrir et de l'écrire à partir de ce qui nous nourrit avant. Comme les acteurs qui doivent rentrer dans le 5e acte, dans la suite du livre des actes, dans un autre acte que celui du livre des actes. C'est comme si, peut-être, on nous disait, bien, vous êtes là, nous sommes là, c'est à notre tour maintenant. C'est à nous de jouer. C'est à nous de poursuivre l'histoire à partir de ce que nous savons, que les disciples sont appelés à vivre. Dernière chose, c'est à nous de jouer, mais c'est pas une situation très très confortable. Je crois que Paul ne se trouvait pas non plus dans une situation confortable. Il était dans une situation qu'il n'avait pas vraiment choisie. Dieu, au moment de l'appel de Paul, s'était imposé à lui, au chapitre 9, et avait dit qu'il allait le conduire à souffrir. Voici Paul à Rome, où vraisemblablement il n'est jamais allé jusque-là. Le voici sans église. Le voici seul. Le voici isolé. Le voici confiné, disons en activité réduite. Le voici, comme je le disais la semaine passée, à devoir faire avec les cartes qui lui ont été distribuées. Le voici seul à devoir nourrir sa foi sans le soutien physique d'une communauté, sans Zoom, sans Internet, sans téléphone. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Le voici à devoir nourrir sa foi. Et là, il y a peut-être quelque chose de comparable pour nous. Il y a des moments, nous vivons des moments où nous avons à nourrir notre foi, alors que ce qui nous permettait de la nourrir ordinairement peut-être n'est pas là. Il y a des moments où la foi chrétienne se voit mise à l'épreuve, doit s'entretenir, doit trouver d'autres façons de s'enraciner, de se perpétuer, de s'alimenter, que les façons qui lui étaient ordinaires, que nous appelions ordinaires, il y a quelques semaines encore. Ce qui fait vivre Paul, ce qui le fait parler, ce qui le fait avoir confiance, le texte nous dit que c'est sa familiarité, son attachement à la parole. C'est elle qui nourrit sa foi, c'est elle qui nourrit son témoignage, C'est elle qui nourrit son espérance, ses propos, c'est elle qui l'alimente et le ressource. Voilà ce que Paul a fait au moment où Dieu lui disait peut-être « C'est à toi maintenant d'agir, c'est à toi de rentrer sur scène. » Aujourd'hui, peut-être que nous avons à entendre nous aussi quelque chose du même ordre. Nous avons à trouver d'autres façons de continuer à nous nourrir de l'Écriture. Eh bien, voilà, c'est à nous d'entrer en scène, de continuer en scène, c'est à nous.